à la réconciliation de tous et de chacun, et avec le Père, et avec les fils, et les petits-fils. Vous voyez, la problématique qui était donnée au départ, on va vous la raconter à travers l'histoire, des histoires, des histoires. Il faut bien tout un livre pour dire cela. Et ça se termine par une bénédiction. Bénédiction de Jacob à ses 12 fils. Ils leur disent qu'ils vont devenir. Évidemment, puisque c'est écrit après l'exil, on sait ce qu'ils sont devenus. Oui, mais pourquoi mettons tout ça dans la bouche de Jacob? Ben parce que c'est déjà dans la bouche du père, hein, que se trouve le destin des fils. Il est déjà là. Il est comme une petite semence. Pas davantage. On ne le voit pas tout de suite. Oui, mais dans un omniscient, il le voit tout de suite, lui, hein. Ah oui. Parce qu'il a une vue plongeante sur toute l'histoire. Exode. Ah, maintenant, on va vous raconter autre chose. J'avais déjà commencé, parce qu'avec l'histoire de Joseph, voilà un petit bonhomme, Joseph, qui va dans un autre pays, où on parle d'une autre langue, et qui était envoyé, oui, qui est arrivé là comme prisonnier, comme esclave, et petit à petit, il remonte le courant, il devient le grand vizir, et donc voilà, un petit Israël, un petit israélite, qui devient maître. Israël, c'est le nom qui a été donné à Jacob. Un petit israélite qui devient plus important que le pharaon d'Égypte. Là, c'est le problème de l'esclavage humain. Et il y a un exégète, Georges Ozou, qui a fait un beau livre sur l'Exode, et l'intitule « De la servitude au service ». Parce que le mot hébreu, avoda, le B se prononce V, avoda, signifie beaucoup de choses en hébreu. C'est l'esclavage, c'est le service, les serviteurs, c'est un évêque, et c'est la célébration liturgique de la servitude au service. Comment ? L'esclavage peut-il devenir une liturgie? Eh bien, ça c'est le livre de l'Exode. On va vous raconter l'oppression des Égyptiens, puis la sortie de l'Égypte avec le cantique de Moïse, le cantique sur la mer, le passage de la mer, du casque de Sabélie, la marche au désert, après mouiller au mal sec, et puis après avoir traversé la mer, une partie du désert, on reçoit la loi, la Torah plus exactement, l'enseignement au Sinaï. Et nous avons là un premier code, on appelle le code de l'alliance, au cœur de ce livre. Et on raconte l'alliance entre Dieu et l'homme. Puis, il faut faire un sanctuaire. Et c'est Dieu qui donne les plans. Il est architecte et entrepreneur. Il donne les plans. Mais il laisse à Moïse la délégation de l'entreprise. Et on a à peine reçu la loi du Seigneur. On a reçu les plans d'un sanctuaire. Sanctuaire, ça veut dire la présence de Dieu au milieu de son peuple. Que se trouve l'apostasie, le veau d'or, un nouveau péché originel. Tout le temps de péché originel dans la Bible. Hein. Dès que Dieu fait un cadeau, l'homme se révolte. Il ne veut pas accepter le cadeau. On est mieux servi par soi-même. Hein. Parce que quand vous recevez un cadeau, c'est pas vous qui l'avez fabriqué le cadeau. Hein. On reçoit tel qu'il est. Le premier cadeau que nous recevons, c'est notre vie. C'est pas si facile d'accepter, hein. Et c'est un petit peu tout ça qui va travailler. Et donc vous avez le mot d'or, et puis la réconciliation. Et puis on repart, et puis on construit le sanctuaire. On construit le sanctuaire après le péché, c'est assez curieux. Comme l'homme connu sa femme après le péché. Vous voyez comme ça, déjà, des récidives dans la vie. Des choses qui reviennent. Des grandes avenues, autrement. Des thèmes. Donc l'Exode, c'est toute cette histoire de la servitude au service, de l'esclavage à la célébration de Dieu présent dans son peuple. Qu'est-ce que c'est que Dieu présent dans son peuple? Ah ben, il faut aller trouver les Lévites, c'est-à-dire hein, les gens de la tribu de Lévi, c'est-à-dire les prêtres. Ils sont là pour ça. Ils sont justement là pour faire le passage entre Dieu et le peuple. Mais à l'intérieur du peuple, parce que Dieu, on ne le voit pas. Et donc le Lévitique, c'est la constitution du peuple comme prêtre. On parlera dans la tradition du sacerdoce commun des fidèles. Voilà, bien présent. Comment un peuple peut-il devenir sacerdotal? Autrement dit, comment un peuple peut-il être l'attestation de la présence de Dieu dans le peuple? Qu'est-ce qu'il faut pour cela? Eh bien, voilà, il y a tout un rituel. Tout un rituel. Il faudra vous poser la question de savoir pourquoi des rituels, qu'est-ce que ça vient faire? Qu'est-ce que ça vient faire? Les sacrifices, et les offrandes. Hein? On va vous parler de ça dans le Lévitique. Oui, mais il faut quand même que les prêtres, pour qu'ils soient prêtres, soient reconnus prêtres. Hein. Pour que tout le peuple soit prêtre, il faut qu'il y en ait certains qui ne fassent que ça. Ah ben voilà, on va vous dire comment ils sont investis de leur sacerdoce. Oui, attention. Attention. Quand on est un peuple de Dieu, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a ce qui est prêtre de ce qui est. Pur, ce qui est. Il y a de l'appel de qualité, si vous voulez, du peuple, et il y a ce qu'il n'a pas. Qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est impur? Il faut le savoir. Il faut le savoir, pour savoir quelle est notre appartenance au peuple. Et alors, mais quand ça n'a pas marché, quand on a fait des fautes, puisqu'il y a des péchés originels hein, qui se répètent hein, dans chaque vie humaine. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il y a moyen de raccommoder? Ben oui. Il y a le Yom Kippour, précisément, le jour de l'expiation, le jour du grand pardon. Qu'est-ce que ça vient faire là? Qu'est-ce que ça veut dire? Une alliance rompue, raccommodée, restaurée. Bon, jour des expiations. Et puis alors, tout un code de nouveau. Il y avait le code de l'Alliance dans l'Exode, et maintenant il y a un code de sainteté. Quelle est la sainteté du peuple? Soyez saints car moi, votre Dieu, je suis saint. Rapport entre l'un et l'autre. La sainteté du peuple. Ça, c'est le Lévitique. Et alors, eh bien, à ce moment-là, on se remet en marche. On est resté tout un an. Au Sinaï, on se remet en marche, le chapitre 10 du livre des Nombres, et c'est la continuation de la marche au désert. Oui, mais c'est pas facile parce qu'on rencontre des ennemis partout. Partout. On devrait marcher, ça devrait aller droit, mais de tous les côtés, il y a des ennemis qui vous tombent dessus. D'où viennent ces ennemis? Pourquoi des ennemis? Qu'est-ce qu'il faut faire avec les ennemis? Voyez, ce sont tous ces. Tous ces problèmes qui viennent maintenant à travers ce qu'on appelle le livre des nombres. Et il y a un recensement pour recentrer en quelque sorte le peuple et lui donner des dispositions pour quand on entrera en terre promise. Il faut quand même que ça finisse tout ça, hein, tous ces ennemis. quand même qu'un jour on se trouve en paix. Ah voilà. Quelles sont donc les conditions de la paix? Deutéronome, trois discours de Moïse, plus une prière, un cantique, une bénédiction. Trois discours de Moïse, c'est-à-dire le testament de Moïse. Avant, qu'est-ce qu'on a fait au désert jusqu'ici? Récapitulation, il raconte ce qui s'est passé. Pendant, quelle est la loi de Dieu? Un résumé avec une nouvelle mouture de la loi, qu'on appelle le code deutéronomique, cette fois-ci chapitre 12 à 26. Et après, qu'est-ce qui va se passer quand on sera de l'autre côté? De l'autre côté du Jourdain. Donc voyez, au fond, ces livres vont nous donner une sorte d'orientation fondamentale du peuple d'Israël, qui est un peuple qui se découvre sacerdotal, c'est-à-dire qu'il a une vocation à remplir dans le monde. Dire que Dieu est là, qu'il est unique, et montrer au monde que c'est vrai, puisqu'il vit comme le peuple du Dieu unique. Voilà en bref, apéritivement, ce que nous allons voir dans la suite des jours. Nous devons voir, selon le programme, la Torah est-elle œuvre de Moïse? Et comment est-on passé de cette conviction traditionnelle à la critique que nous pouvons faire aujourd'hui de ce texte? Et puis nous commencerons le chantier du Pentateuque, car je ne pourrais pas être ici au cours de la semaine prochaine, et donc vous aurez un petit soupir qui vous permettra de lire les feuilles et éventuellement de prendre dans le cahier évangile que je suis également, vous trouvez là dans le cahier évangile numéro 106, au fond, la matière que nous traitons ici. Et puis, deuxième problème que nous allons commencer aujourd'hui, et comment en est-on arrivé à ce qu'on appelle généralement la théorie documentaire au sujet du Pentateuque. Bon. Au départ, la tradition juive, comme la tradition chrétienne qui lui a fait suite, c'est une tradition pensée que tout avait été écrit par Moïse, pour la bonne raison que plusieurs fois dans le texte, et que vous avez sur les feuilles que je vous ai données à la page 3, vous avez quelques indications dans le texte, notamment dans l'Exode et surtout dans Deutéronome, Moïse écrivit le texte que le Seigneur lui donnait, lui dictait. Ce n'est pas tout à fait. Et Jésus lui-même ne dit-il pas, lorsqu'on lui pose la question de savoir s'il y a une résurrection des morts, que les morts ressuscitent? Moïse lui-même l'a indiqué, dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc voilà la question. Seulement, il y a des problèmes. Et ces problèmes ont été déjà vus, bien entendu, par la tradition juive, mais il n'y fixait pas davantage son attention. Le problème, c'est que, à la fin du Deutéronome, au chapitre 34e, on nous raconte, qui nous raconte? La mort de Moïse. Difficile que Moïse nous raconte sa propre mort. Mais ça ne faisait pas grand problème pour la tradition juive, pour la bonne raison que l'on disait bien. Moïse a écrit l'ensemble du Pentateuque, et puis Josué a écrit le 8 dernier verset. Donc, en gros, ça pouvait marcher. Et se trouve situé dans votre, à la page 3 également, un passage du Talmud. Le Talmud, il faut le situer entre le 4e et le 6e siècle après Jésus-Christ. Dans le Talmud, donc on vous dit que 8 versets dans la Torah furent décrits par Josué, ainsi qu'il est enseigné. Moïse, le serviteur du Seigneur, mourut là, Est-il en effet possible que Moïse, une fois mort, ait écrit « Moïse mourut là » La vérité toutefois est que Moïse écrivit jusqu'à ce point et que Josué écrivit à partir de ce point. C'est tout à fait très simple hein, pour la tradition. Telle est l'opinion de Rabbi Judas et selon d'autres de Rabbi Nehemia, Rabbi Siméon lui dit « Le rouleau de la Torah peut-il manquer d'un mot ?» Et n'est-il pas dit « Prenez ce livre de la Torah » Non. Ce que nous devons dire est que jusqu'à ce point, le Saint béni soit-il, dicta, et Moïse répéta et écrivit. Et qu'à partir de ce point, Dieu dicta, et Moïse écrivit en pleurant, puisqu'il s'agissait de Shamot. Bon, c'est encore assez simpliste, bien entendu, mais voilà ce que la tradition juive disait, parce que la tradition juive ne s'interrogeait pas du tout sur l'historicité. C'était pas du tout ça qui était important, parce que la tradition juive s'intéresse surtout sur le contenu, sur le message à transmettre. Et les pères de l'Église, pareillement. Si bien qu'ils n'ont fait aucune critique sur le sujet. Comment Moïse peut-il donc parler de sa mort? Et il faut attendre, au fond, le XIIe siècle, pour qu'un commentateur de la Bible, un juif bien entendu, de la tradition juive, nous fasse un commentaire. Mais un commentaire qu'est Ibn Ezra, le fils d'Ezra. Mais ce commentaire est tout à fait énigmatique, car si quelqu'un avait dit, comme du côté chrétien d'ailleurs, si quelqu'un avait dit que la Bible, que le Pentateuque n'avait pas été écrit par Moïse, et qu'il aurait été évidemment évincé de la communauté, tout à fait sûr. Et alors il commente prudemment, je vous ai donné le texte également, au-delà du Jourdain. Quand on dit au-delà du Jourdain, généralement, dans le Deutéronome, on se place dans la terre promise, et au-delà du Jourdain, c'est en Jordanie. Si vous comprenez le mystère des douze, quelles douze? Les douze tribus, les douze pierres oui, sur lesquelles nous faisons le texte de la loi. Par ailleurs, Moïse écrivit la loi. Moïse l'a écrit, elle est douce. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Comme Moïse a dit les Cananéens étaient alors dans le pays, donc c'est que Moïse a vécu après que les Cananéens sont partis. Et donc il faut attendre David, l'époque de David. Il sera révélé sur la montagne de Dieu. Et la montagne de Dieu, pour Ibn Ezra, c'est le temple de Jérusalem. Il sera révélé sur la montagne de Dieu. Et son lit, un lit de fer, alors vous saurez la vérité. Je parle d'un lit de fer fameux que l'on pouvait aller voir à Rabat Ammon, c'est-à-dire à Amman aujourd'hui. Le lit de Og. Oh, Og était un contemporain de Moïse. Alors vous voyez, il s'exprime de façon très prudente pour qu'on puisse comprendre que lui met en doute l'authenticité mosaïque du Pentateuque, mais il s'exprime de telle manière qu'on ne puisse pas tout à fait le comprendre. Alors, il y a des biblistes espagnols qui, au XVe siècle, donc dans les 1400, ont commencé prudemment aussi, mais du côté chrétien cette fois-ci, une certaine critique. Ils disent, c'est quand même étrange que Moïse parle de lui-même à la troisième personne à certains moments du Pentateuque. Et que celui qui raconte tout, le narrateur omniscient, comme nous l'avons vu la fois passée, que le narrateur omniscient parle de Moïse à la troisième personne. S'il parle de Moïse à la troisième personne, c'est que ce n'est pas Moïse qui a tout écrit. Et donc, du côté chrétien, on met quand même les choses un peu en... sur le plan du soupçon, si vous voulez. Ce commentateur espagnol s'appelle Alfonso de Madrigal. Mais alors, du côté juif, de nouveau, nous avons Baruch Spinoza, au XVIIe siècle, vous voyez, on avance rapidement, au XVIIe siècle, dans son traité Theologico-Politicus, comme ça qui est l'intitule, pense celui que c'est Esdras, c'est-à-dire le compilateur d'après l'exil, à l'époque de à l'époque perse, Esdras, qui est envoyé justement par le gouvernement perse pour aller voir comment les choses se passent à Jérusalem. Et d'après lui, ce serait Esdras, ce rédacteur omniscient qui écrit. Donc ce ne serait pas Moïse lui-même, voilà que ça pourrait être Esdras. Et nous arrivons tout doucement à l'époque où on commence à devenir critique, c'est-à-dire l'époque de la Renaissance. Et vous avez un auteur qui écrit un livre, Léviathan, Hobbes, en 1651, et puis Richard Simon, qui écrit pour la première fois une histoire critique du Vieux Testament. Mais attention, sur les pages, il est mis que la date de Richard Simon, c'est 1768, mais ça c'est après ça. C'est 1678, il faut intervertir le chiffre. L'histoire critique du Vieux Testament est écrite en 1678, donc au XVIIe siècle. Et lui analyse de près, sur le plan littéraire, critique au niveau de la littéraire, il analyse le texte et en regardant et en relisant le texte du Pentateuque, il remarque qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas tout à fait exactes. Des anachronismes. On ne sait pas toujours à quelle époque on se situe. Il y a alors des contradictions dans le texte. Ces contradictions, je ne sais pas si ça marche constamment. Il y a pas besoin d'être. Mais ok. Il y a des contradictions dans le texte. Par exemple, dans le déluge, il y a deux versions. Il n'a pas duré le même temps hein, dans le même texte. Ou bien alors, vous avez les couples qui sont présents dans l'arche au milieu du déluge. Ah ben, là aussi, hein, il y a des computes différents. Vous avez un double récit de la création aussi. Et alors, on vous dit par deux fois que Dieu est invoqué sous le nom de, traduisons généralement par Yahvé, il faudrait dire Yahou plus exactement, alors que dès le début, dès le livre de la Genèse, on trouve ce terme, alors que ce terme n'est révélé que dans l'Exode au chapitre 3e à Moïse. Donc il y a pas mal de tensions, de contradictions, de choses qui ne coulent pas source, et on voit bien que ce texte a été un morceau de pièces recousues ensemble. Et donc, il faut aller voir cela de plus près. Mais, ce n'est que petit à petit que l'on commence à faire véritablement une critique du texte, sur le plan littéraire d'abord. Jusque-là, vous voyez, on s'était surtout interrogé sur le message, le contenu qui était porté. Ce contenu étant évidemment spirituel, les détails matériels, n'importe pas. Et voilà qu'on leur donne une importance. Alors, comment résoudre ce problème? Eh bien, on va nous dire, et c'est le début de ce qu'on va appeler la théorie documentaire. Donc nous avons un premier point, Moïse, et puis on est passé à Esdras, pour dire quel est un auteur du Pentateuque, et puis on se pose la question, est-ce anachronisme, doublé, contradiction. Donc le livre n'a pas été composé d'un seul tenant. Et entre ce qui est écrit des patriarches, et ce qui est écrit finalement à la fin de toute l'histoire, c'est-à-dire jusqu'à la période perse, il y a eu moyen de faire des additions à un texte primitif éventuellement. Et voilà le début de la critique littéraire. On se dit, c'est quand même étrange que le terme qui est utilisé pour dire Dieu, est double dans le Pentateuque. De temps en temps, on parle de Elohim,
qui veut dire Dieu, ou la divinité plus exactement, c'est un pluriel.
Ça pourrait aussi bien signifier les dieux, la divinité. Et de temps en temps, on parle du tétragramme. Le tétragramme que l'on ne prononce pas, parce que prononcer un nom, ça voudrait dire qu'on a une puissance sur la personne en question qui porte ce nom, qui vient probablement d'une interjection primitive. Yahoo! Oh lui! Oh lui! Donc il est nommable. Oh lui. Mais ceci n'est pas un terme abstrait. La divinité, Dieu, si vous voulez, elle, Allah, mais c'est le nom propre. Et parce que c'est le nom propre, on ne prononce pas. Yahvé n'a pas de sens, pas plus que Jéhovah. Mais c'est l'imprononçable. C'est souvent, quand le juif traduit ce terme, il dit le Seigneur, ou une autre expression, de très long terme. Et alors, on commence à faire des hypothèses. Moïse, quand on met Moïse maintenant, on met l'auteur du Pentateuque. On met à sa disposition deux sources. Un document A, dans lequel on parle de Dieu, et un document B, dans lequel on parle plutôt de du Seigneur. Et les tout premiers, vous avez ça à la page 4 que je vous ai distribué ce matin, vous avez deux personnages qui s'appellent Wetter en Allemagne et Jean Astruc qui était le médecin de Louis XV en France qui écrit, lui, Astruc. Mais, vous voyez, nous sommes déjà entre le 17e et le 18e siècle. Assez tardif, conjecture sur les mémoires originaux dont il paraît que Moïse s'est servi pour composer le récit de la Genèse. On parle encore de Moïse, mais cette fois-ci, Moïse, ce n'est plus uniquement le personnage historique, c'est un personnage littéraire. Donc Moïse aurait eu à sa disposition deux documents qu'il aurait précédés. Et petit à petit, on va essayer de se baser là-dessus, sur l'utilisation des deux termes qui peuvent signifier la personne de Dieu. Et on va continuer à analyser de près les textes. Et on en arrive, toujours de façon un peu dispersée, pas encore unifiée, à poser ces deux textes primitifs, deux sources primitives, auxquels la tradition aurait ajouté petit à petit d'autres textes, d'autres récits, d'autres textes de loi, etc. Et puis, petit à petit, maintenant, on voit les choses comme étant un texte qui grossit au fur et à mesure qu'il est lu, relu, et se compose de plus en plus. Et j'ai pris un encadré, là, que vous trouvez d'ailleurs dans le cahier évangile sur le Pentateuque, il vous donne bien un petit schéma des différents documents et de la manière dont ils auraient été agencés petit à petit. Et dans l'histoire de la recherche, trois modèles principaux ont été utilisés, et cela petit à petit, soit séparés, soit combinés pour rendre compte de l'histoire de la composition du Pentateuque. On se rend bien compte, et à étudier de près le style, on voit bien qu'il y a des styles différents, et que le vocabulaire est différent. Par exemple, dans certains textes, on parle de Sinaï, dans d'autres textes, on ne peut pas utiliser le terme de Sinaï, vous comprenez bien, parce que Sinaï, c'est le dieu Sin, le dieu Lune. On ne parle pas de dieu Lune dans un texte d'Israël. Et donc, on va remplacer le mot Sinaï par l'Horeb. Donc, utilisation postérieure. Ce n'est pas le premier mot qui est utilisé. Ces modèles recourent respectivement à la notion de document documents de base, de compléments ajoutés petit à petit, ou de fragments, fragments d'histoire qui se seraient agglomérés. Et vous avez un petit schéma qui vous dit par exemple que vous aviez quelques traditions, il m'a dit ici T1, T2, T3, ce sont des traditions. Encore, quand on parle de traditions, c'est généralement, ce sont des traditions orales. Et que ces traditions auraient abouti à des documents. Le D signifie document, et vous avez deux documents de base, donc des traditions, colportées, hein, de bouche à oreille, qui finalement, vous aurez trouvé deux rédacteurs, et puis ces deux rédacteurs auraient été repris par un autre rédacteur qui en aurait fait le texte final. Voilà comment on a commencé à se représenter les choses. Et ce n'est pas tout à fait faux. Mais ce n'est pas tout à fait juste non plus. Parce qu'on voit bien, en analysant le texte de très près, et de plus en plus on s'est mis à connaître l'hébreu, et à découvrir la manière de s'exprimer à telle ou telle époque, et on a perçu qu'il y avait effectivement encore des compléments qui avaient été ajoutés par-ci, par-là. Donc le style était lui aussi différent. Et c'est pour ça que une autre théorie, la théorie des compléments, des deux sources toujours, puis des compléments, a été élaborée. Et vous l'avez là dans ce dessin, à la page 4, T1, T2, T3, T4 sont un certain nombre de traditions, on ne sait pas les dénombrer, qui auraient formé un texte, et puis ce texte lui-même aurait été grossi de différents compléments, C1, C2, C3, etc., pour aboutir au texte final. Vous voyez, ou bien tradition double, deux documents, basés sur la manière de dire le nom de Dieu, ou bien différentes traditions qui se sont agglomérées, et puis des compléments se seraient ajoutés à une source. Bon. Troisième schéma que l'on a utilisé, après bien sûr Witter et Astruc, la théorie des fragments. On aurait dû d'abord des traditions qui auraient donné, mais après l'exil seulement, différentes traditions qui auraient continué à vivre. Et puis, quand on se serait trouvé en exil, on n'avait plus de parchemin, mais qu'on n'avait plus que sa propre mémoire, on aurait reconstitué avec des fragments divers, on aurait reconstitué une source, c'est-à-dire le Pentateuque. Et c'est pas tellement étonnant. Il y a, dans la Shoah, c'est 1940, des Juifs, dans des camps de concentration, d'extermination, qui ont reconstitué de mémoire tout un Pentateuque, et qui l'écrivaient sur de vieilles bottes qu'ils avaient volées aux Allemands, qu'ils coupaient de façon extrêmement fine, comme des parchemins, et ils recopiaient là, de façon presque illisible, tellement petite, tout un Pentateuque. Et on s'est rendu compte que ce Pentateuque était tout à fait correct, mais alors qu'il se basait seulement sur leur mémoire. Donc tout ça est plausible. Et voyez, on se met à tâtonner à partir de deux sources, ou bien à partir de collections, d'un texte, des compléments, des fragments qui se sont ajoutés. Arrive alors, au début du 19e siècle, M. De Wet. Vous l'avez au bas de la page 4 des pages que je vous ai données, qui écrit un livre en 1805, Dissertation critico-exégética. Donc il fait de l'exégèse critique, ce monsieur. Et alors, je sais pourquoi on a appelé cela. Le point d'Archimède, le Eureka, il a trouvé quelque chose, ce monsieur. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Eh bien, dans le livre, le deuxième livre des rois, au chapitre 22 et 23, on vous parle de Josias. Josias 622 avant Jésus. Roi de Jérusalem. Et ce Josias a fait une réforme. Et il a fait cette réforme à base de la trouvaille d'un manuscrit. Il raconte cela, la trouvaille d'un manuscrit, que lorsqu'on a fait des aménagements dans le temple de Jérusalem, on l'a trouvé dans une muraille. Mais qu'est-ce qui se trouve dans ce texte? Eh bien, toute une loi. Et cette loi, nous la trouverons incorporée entre le chapitre 12 et le chapitre 26e du livre du Deutéronome. Et alors, ce monsieur de Bette se dit, mais ce texte qui se trouve dans le Deutéronome, est-ce que ce n'est pas ce texte retrouvé? Et donc, ce texte daterait vraisemblablement de l'époque 622, la réforme de Josias. Et effectivement, là on a des vestiges sur le plan de l'archéologie, effectivement, Josias a fait cesser à son époque, c'est un des points de la réforme, tous les petits sanctuaires qui existaient un peu partout, qui n'était plus exactement des sanctuaires monothéistes, où il y avait un mélange entre les Baals, c'est-à-dire les dieux des Cananéens, et Dieu unique. Il a fait cesser tout ça, et on voit qu'il y a des temples qui ont été détruits à cette époque-là, pour ne garder que le temple de Jérusalem. Ça provoquait d'ailleurs de petits problèmes sur le plan de la vie quotidienne. Parce que généralement, quand vous vouliez avoir de la viande, il fallait vous adresser au temple. C'est là qu'on débitait la viande. On faisait les sacrifices, et dans les sacrifices de communion, on gardait la viande pour la vendre au peuple, aux gens. Et donc, s'ils suppriment tous ces temples et tous les sacrifices qu'on nous faisait pour de plus en plus à Jérusalem, il n'y a plus qu'une boucherie sacrée, celle de Jérusalem. Et donc, il désacralise la boucherie. On peut trouver, mais à partir de l'époque de Josias, on peut trouver de véritables bouchers qui ne sont pas des prêtres. Hein, jusque-là, il y avait des prêtres qui étaient des bouchers. Et donc, en même temps que l'on travaille la Bible, on travaille aussi l'histoire de la Bible. Et petit à petit, on essaie de faire, il y a des différents auteurs, qui essaient de constituer une histoire de la Bible qui ne soit plus exactement l'histoire telle qu'elle est dans la Bible, l'histoire d'Israël. Et on se met à distinguer deux choses. Jusqu'ici, on prenait l'histoire telle qu'elle est racontée dans la Bible comme ce qui s'était exactement passé, d'une façon un peu fondamentaliste. Et à partir de 17e, 18e siècle, 19e siècle, on se met à distinguer les deux histoires. Il y a une histoire extérieure, histoire mondiale, mondaine, si vous voulez. Et il y a une histoire du salut. La Bible nous parle de l'histoire intérieure. Mais l'histoire du peuple d'Israël a pris un autre chemin. Et de plus en plus, surtout donc à partir de l'humanisme de la Renaissance, ces deux types d'histoires vont véritablement se scinder. Jusque-là, on mettait tout sur le compte de l'histoire du salut. Maintenant, on critique. Et on voit bien que cette histoire de salut ne s'est pas passée sur le plan de la réalité humaine telle qu'on peut l'apercevoir, c'est pas passé exactement comme on imaginait en lisant le texte. Et donc, on va commencer à faire une critique historique du Pentateuque. Quelle est l'histoire sous-jacente à cette réalité-là? Et effectivement, quand on essaie de voir, les archéologues ont fait ce travail, depuis le 18e, le 19e, puis le 20e siècle, ils ont fouillé Jérusalem et on s'est rendu compte que Jérusalem était un petit village, un mouchoir de poche, et que David, le grand roi, hein, parce que l'empereur David ou l'empereur Salomon, c'est un petit roi de rien du tout, un petit aventurier. Alors, on essaie de mettre les choses ensemble. Et vous aurez donc des auteurs qui vous parleront de la Geschichte d'Israël, de l'histoire d'Israël, mais on dit Geschichte d'Israël. Et puis, de la critique du texte biblique. Et c'est ainsi qu'on est arrivé à partir de cette première critique littéraire, on est arrivé à ce qu'on peut appeler la critique historique. Et donc, critique historique, il se fait sur deux plans, sur le plan de l'archéologie et sur le plan des textes, de l'exégèse. Comment, petit à petit, le Pentateuque s'est-il constitué? Et part toujours de ces deux documents. Mais on se rend bien compte que le terme de Yahvé, si vous voulez, ou le terme d'Elohim, n'est pas un critère suffisant. Car il y a des mélanges. Alors, vous avez, après deux commentateurs, Reuss, qui était un Allemand, et puis Graf, qui était son élève, vous avez surtout Reynolds. Julius Wellhausen, dont les dates vous sont données, 1844-1918, vous voyez, nous arrivons au XXe siècle, qui fait un livre qu'il appelle Die Komposition des Exadeus und der historischen Bücher des Alten Testaments. Mit Alten Testament. Et le petit schéma que vous trouvez à la page 5 correspond bien à ce qu'il a découvert. Il met au départ deux textes qu'il appelle Yahvistes, parce que il part de cette base toujours. Des textes où l'on parle de Dieu comme nom propre, tétragramme, et Elohiste. Voilà. Deux textes de base. Il commence par là. Et en analysant, c'est vrai qu'il y a des coupures. On peut mettre des textes où l'on parle de Yahvé d'un côté, et ceux dont on parle de Dieu, d'Elohim, de l'autre. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Parler de Dieu comme de la divinité, ou parler de son nom propre, n'équivaut pas exact à la même réalité tout à fait. Alors, mais il distingue. Il y a un Yahviste, c'est le plus ancien. Son prédécesseur de Wett mettait le Yahviste comme le plus jeune, le plus récent. Lui, il dit non, c'est le plus ancien, c'est le texte le plus ancien. On ne date pas encore tout à fait, mais on voit bien qu'il est plus ancien. Pourquoi? Mais parce que dans ce qu'on appelle encore à ce moment-là le texte Elohiste, eh bien, on trouve des lois, mais qui semblent beaucoup plus tardives. On trouve des lois dont les prophètes, dont les autres textes historiques de la Bible ne parlent pas. Donc, l'Elohiste est viendrait peut-être après. Et ces lois, les lois sacerdotales, les lois sur les fêtes, etc., viendraient encore beaucoup après. Et on commence à avoir un petit schéma historique. Jusque-là, on prenait toute l'histoire d'Israël en quelque sorte à plat. Et maintenant, on se rend compte que cette histoire d'Israël, et aussi l'histoire du monothéisme, est une histoire qui petit à petit formé, on n'est pas arrivé tout de suite à un seul et unique Dieu. C'est une idée qui a été d'abord vécue, puisque c'était le Dieu d'un clan, d'abord d'une famille, puis d'un clan, puis éventuellement d'une tribu, puis peut-être d'un peuple, et il a fallu que ce Dieu-là, ce Dieu qui est le mien, celui que j'ai perçu à travers un certain nombre d'histoires, d'événements qui se sont passés dans mon histoire, il faut découvrir comment, petit à petit, on a découvert qu'il n'était pas seulement mon Dieu, mais qu'il était puissant aussi sur les autres dieux, le Dieu des dieux. Et que ce n'est que beaucoup plus tardivement qu'on est arrivé au monothéisme strict, même s'il était déjà en germe dès le départ. Ah. Et dans les textes, puisque on est arrivé définitivement, au moment de l'exil en tout cas, à la perception d'un seul et unique Dieu, c'est qu'il était déjà là depuis le départ. Le Dieu était toujours là, dès le départ. Mais on s'en est rendu compte petit à petit. On parle du Dieu de Jacob, on parle du puissant de Jacob aussi. Du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et on parle d'abord du Dieu d'une famille. Avant de parler du Dieu unique, bien entendu. Et donc, le champ de l'histoire d'Israël, c'est davantage découvert avec différents plans. Et c'est ce plan que l'on a essayé d'exprimer en essayant de reconstituer, il y a même des reconstitutions intéressantes en couleurs, où tous les textes de la Bible vous sont donnés dans des couleurs différentes. Le Yahviste en rouge, l'Éloïste en bleu, et puis quand les deux disent plus ou moins la même chose, ça devient du violet, etc. Et puis on ajoute, et vous voyez, on pensait en tout cas, que vers 750, ça vous dit le moment où, 722, Samarie est tombée. Les Assyriens ont pris